L'association CEL pour l'organisation de cette journée de solidarité. Et je vous invite à chercher dans vos Bibles, à la fin de la Bible, dans la première lettre de Pierre, les deux textes qui vont nous servir pour la lecture et la prédication de ce matin. Donc, première lettre de Pierre, au chapitre 1, nous allons lire les deux premiers versets, et puis deux versets aussi au chapitre 2, les versets 11 et 12. Je vais lire ces deux textes avec vous. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôte de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie, de Bithynie, c'est le Grand Paris de l'époque. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacré par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Tout début de cette lettre, que je vous invite à relire à la maison cette semaine, si vous le souhaitez. Et puis au chapitre 2, les versets 11 et 12, qui reprennent un petit peu ce thème des hôtes de passage. Chapitre 2, versets 11 et 12. « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage, c'est pourquoi je vous le demande. » Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Voilà les quatre versets, deux fois deux versets qui vont nous accompagner pendant ces quelques minutes de prédication. Ces deux extraits de la première lettre de Pierre peuvent nous aider à comprendre le cadre global que la Bible nous offre pour faire le bien et bien le faire dans notre monde tel qu'il est, c'est-à-dire marqué par le mal et le refus de Dieu, mais aussi par la détresse, la souffrance et la pauvreté. Les choses que l'on trouve et qu'on va examiner ensemble dans ces deux textes sont appliquées par Pierre à des sujets autres que l'action sociale. Mais nous verrons qu'ils sont directement pertinents pour une action chrétienne dans un monde en détresse et face à la pauvreté. Oui, Dieu nous appelle à faire le bien. Comme beaucoup de chrétiens responsables, les partenaires locaux du service d'entraide et de liaison, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, essayent d'agir avec sérieux et efficacité pour faire reculer la pauvreté. On a vu quelques extraits dans la vidéo tout à l'heure. Et leur témoignage stimulant, j'espère pour nous, nous encourage, devrait nous encourager à faire le bien et à bien le faire. Qu'est-ce que Pierre nous dit dans ces quatre versets que nous avons lus? Il nous dit trois choses que j'aimerais développer avec vous ce matin. Il nous dit pourquoi faire le bien. Ça sera notre premier point. Il nous dit aussi qu'est-ce que c'est faire le bien. Ça sera le deuxième point. Et enfin, il nous dit qu'est-ce que c'est bien le faire. Troisième point. Première question, pourquoi faire le bien? Eh bien, nous faisons le bien à cause de notre identité chrétienne. C'est quelque chose qui ne vient pas d'abord de nous, et Ghislaine l'a rappelé dans la première partie du culte. Si nous pouvons faire le bien, c'est parce que Dieu nous a fait du bien en premier. C'est parce que Dieu nous a aimés le premier qu'à notre tour nous sommes invités à aimer les autres. Sans l'amour de Dieu, notre amour humain naturel reste bien précaire. Et même quand nous arrivons à faire le bien sans l'aide de Dieu, si on peut dire les choses comme ça, parce qu'il y a autour de nous tout un tas de gens qui font quand même du bien, n'est-ce pas ? Nos voisins, les membres de nos familles, nos amis font du bien autour d'eux. Et parfois nous font du bien à nous aussi. Eh bien, cela, en tant que chrétiens, nous le voyons comme une grâce de Dieu dans leur vie. Et eux ne l'interprètent pas comme ça en général. Ils regardent plutôt à la capacité qu'ils ont eux-mêmes de faire le bien ou de ne pas le faire. Et nous, chrétiens, nous disons que c'est Dieu qui leur donne cette possibilité de faire le bien. Donc, le bien qui se fait dans ce monde vient de Dieu. C'est parce que Dieu nous a aimés le premier que nous pouvons à notre tour aimer les autres. Cela ne vient pas d'abord de notre capacité personnelle à bien agir, mais du Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ. Et ce Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ est un Dieu, nous dit la Bible, parfaitement bon, on l'a rappelé ce matin, et parfaitement juste. Et c'est ce Dieu-là qui nous appelle à reconnaître son Fils comme notre Sauveur et Maître, et à notre tour à être bon et juste dans une société qui ne l'est pas, en tout cas en grande partie. Dans notre premier texte, Pierre utilise deux mots importants. Il s'adresse aux chrétiens d'Asie mineure, région où Paul exerçait certainement son activité pastorale à ce moment-là, à la fin des années 50, peut-être au début des années 60, après Jésus-Christ. Et il leur dit, vous êtes étrangers et vous êtes choisis. Je vous propose qu'on s'arrête quelques instants sur ces deux termes. Il dit à ces chrétiens, vous êtes étrangers dans la dispersion. Ce qui doit probablement se comprendre de façon imagée, chaque chrétien est étranger, exilé, voyageur sur la terre, même s'il habite dans un pays dont il est citoyen. Une grande partie d'entre nous sont citoyens français. Et pourtant, si nous sommes chrétiens, ce n'est pas là notre première citoyenneté. Nous sommes citoyens du ciel, du royaume de Dieu, et français. Et en présentant ainsi les destinataires de sa lettre, Pierre met leur situation en lien avec plusieurs passages de l'Ancien Testament. J'en cite quelques-uns brièvement. Par exemple, Abraham, le père des croyants, confessait devant la nation des Hittites, « Je suis un immigré et un résident temporaire chez vous. » C'est quand il achète le terrain sur lequel qui va devenir le tombeau familial. Il enterre sa femme Sarah et puis ensuite il sera enterré là. « Je suis un immigré, un résident temporaire chez vous. » Genèse chapitre 23, verset 4. Abraham vivait pourtant à ce moment-là dans le pays que Dieu avait promis de lui donner ainsi qu'à ses descendants. Et bien de la même manière, les chrétiens d'aujourd'hui qui ont reçu la promesse de l'héritage du monde et de la terre faite à Abraham, vivent dans le temps présent comme des exilés et des étrangers sur la terre. Plus tard, dans la période où le peuple d'Israël, donc issu d'Abraham, est sorti du pays d'Égypte, où il était en esclavage, ce peuple était en attente d'une terre où il soit enfin chez lui. Et bien de la même manière, les chrétiens d'aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, sommes des voyageurs en route vers le pays promis. Troisième temps de l'Ancien Testament, lorsque le peuple est sorti de l'exil à Babylone, le peuple se retrouvait à ce moment-là, donc avant de sortir, se retrouvait loin de son pays et mélangé avec un peuple païen non juif. Et bien de la même manière, aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nous sommes dans une sorte d'exil, nous vivons parmi les gens de toutes les nations, et à Blanc-Mesnil, on le voit, hein, il y a plus d'une centaine de nationalités représentées dans notre ville. Nous vivons au milieu de gens qui ne sont pas chrétiens, Et nous sommes appelés à avoir au milieu d'eux, nous dit Pierre, on va y revenir tout à l'heure, une belle ou une bonne conduite. Donc ça, c'est le premier terme. Pierre nous dit que nous sommes des étrangers. Il nous dit aussi que les chrétiens sont choisis. C'est le deuxième terme important de ces deux premiers versets de la lettre. Le thème du choix de Dieu est rapporté dans notre texte aux trois personnes divines. Pour le Père, c'est son projet, sa volonté qui sont mis en avant. Pour l'Esprit Saint, il est question de consécration ou de sanctification, c'est-à-dire l'appel qui nous est lancé à nous conduire d'une belle, d'une bonne manière selon Dieu. Et puis pour le Fils, il y a deux éléments que Pierre mentionne, l'obéissance et le sang que Jésus a versé à la croix. Dieu veut que nous fassions le bien et que nous le fassions bien, mais cela ne peut se faire que si l'on reçoit le pardon de Dieu pour nos péchés. Le chrétien fait le bien sur la base du pardon de ses péchés et du renouvellement de sa vie, de son être intérieur. C'est l'œuvre de Jésus à la croix, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Alors peut-être nous pourrions à ce stade nous poser la question suivante. Est-ce que nous nous considérons comme des étrangers, des gens de passage dans ce monde? Est-ce que nous qui sommes chrétiens en Occident au XXIe siècle sommes dans cette situation d'immigration spirituelle? Ou bien sommes-nous de ceux qui s'installent ou essayent de s'installer confortablement comme s'ils étaient déjà arrivés à destination? Chacun d'entre nous pourrait certainement réfléchir à ses ambitions professionnelles, personnelles, familiales, ses priorités dans la vie, ses choix de consommation, par exemple. Vient alors une autre question. Qu'est-ce que cela changerait dans notre vie si nous acceptions mieux, on pourrait dire, de nous considérer sérieusement comme des étrangers, mais aussi comme choisis par Dieu, objet de la bénédiction de Dieu, qui nous fait du bien et qui nous appelle à être sel et lumière dans notre monde? Je lisais cette semaine les résultats d'un sondage qui a été fait fin 2017, un sondage mondial réalisé par l'Institut Ipsos dans 25 pays, et où on demandait aux gens un petit peu leur avis sur l'immigration. Eh bien, en France, 53% des personnes interrogées estiment que le nombre d'immigrés en France est trop élevé. Je vous rappelle qu'on est un des pays européens qui accueille le moins d'étrangers, d'immigrés. De réfugiés, en tout cas. La perception de l'immigration reste globalement négative dans le monde, pas seulement en France. C'est ce qui ressort de ce sondage qui a été réalisé auprès de presque 18 000 personnes l'été dernier. Et c'est une étude qui a été menée pendant plusieurs années, avant que le sondage sorte. Dans la plupart des pays, très peu de personnes qui ont été interrogées considèrent que l'immigration a un impact positif. Une personne sur cinq en moyenne, 20%. Et les personnes interrogées en France, c'est 14% pensent que l'immigration, c'est quelque chose de positif. Trop d'immigrés en France, donc pour plus de la moitié des personnes en France, et un Allemand sur deux pense la même chose. Un autre point intéressant, en France, en une année, donc depuis l'année 2016, il y a 6% de personnes en plus qui considèrent qu'il faut fermer les frontières. Et comme dans la plupart des pays, une majorité de Français, 64%, est tout à fait d'accord, ou plutôt d'accord avec l'idée qu'il y a dans le pays, ici en France, des terroristes qui prétendent être des réfugiés. Et en France, plus de la moitié des personnes interrogées, 53%, doutent que les réfugiés soient vraiment des réfugiés. C'est intéressant, hein? Si nous sommes chrétiens, étrangers dans ce monde, et aussi en France, parce que notre citoyenneté première est celle du royaume de Dieu, alors nous ne devrions pas être surpris si les autres nous regardent un peu de travers, et éventuellement comme des gens indésirables, un peu comme les réfugiés aujourd'hui. Si nous ne sommes jamais regardés de travers, et si nous nous fondons dans la masse des gens qui pensent comme tout le monde et qui font comme tout le monde, peut-être qu'il y a là un petit message d'alerte de la part du Seigneur pour nous réveiller. Quel est notre témoignage? Quel impact avons-nous en tant que chrétiens dans une société française qui rejette en grande partie les immigrés et les réfugiés? Or, nous sommes, comme le dit l'apôtre Pierre, des hôtes de passage. Nous sommes appelés à briller, c'est le message de Jésus dans le sermon sur la montagne. L'évangile doit briller dans notre société, parce que la lumière contraste avec l'obscurité ambiante. Et nous vivons dans un monde obscur. Rien ne devrait davantage nous encourager à faire le bien que de savoir que nous sommes choisis et bénis par Dieu, sauvés gratuitement et appelés à nous considérer comme des étrangers dans ce monde. C'est ainsi que nous pourrons nous centrer sur Dieu et nous ouvrir aux besoins des autres. Précisément parce que nous savons que Dieu nous a choisis et que nous sommes étrangers sur la terre, nous n'allons pas nous accrocher, on pourrait dire outre mesure, pour rester sobre à nos biens matériels. Notre identité, c'est Dieu qui nous la donne, et pas la manière dont nous consommons les biens matériels. Et un étranger de passage ne s'encombre pas en général de tout ce que la personne qui s'installe cherche à acquérir. Si nous avons cette mentalité, nous serons libres, plus libres pour faire le bien, y compris face à ceux qui sont dans le besoin. Première question, donc, pourquoi faire le bien? Parce que Dieu nous a choisis et nous appelle à vivre aujourd'hui comme des étrangers de passage, et pas comme des gens installés qui ont déjà obtenu toutes les bénédictions. Deuxième point, qu'est-ce que c'est faire le bien? Que nous dit Pierre dans les textes que nous avons lus? Je relis le chapitre 2, les versets 11 et 12. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage, c'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, ou au désir de la chair, peut-être dans la traduction que vous avez avec vous. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu, ou glorifieront Dieu, le jour où il interviendra dans leur vie. Faire le bien, c'est trois choses dans ce texte. C'est d'abord ne pas faire le mal. Il faut pas l'oublier. Je vous encourage, dit-il aux chrétiens, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ou bien dans la traduction que j'ai lue, je vous le demande, ne cédez pas aux désirs de l'homme livré à lui-même, ils font la guerre à l'âme. le mot chair, l'expression désir de la chair, fait référence à l'être humain sans Dieu, livré à sa fragilité de créature et à sa volonté d'autonomie. L'expression « les désirs de la chair », c'est donc tout ce qui, dans notre vie, nous pousse à vivre sans Dieu, c'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, contre sa volonté, pour privilégier notre volonté, et donc, on ajoute à ces désirs-là tous les actes injustes, finalement, qui en découlent et que nous produisons dans notre vie. C'est toute la Bible, on pourrait relire plein de textes, qui nous montre ce que faire le bien veut dire, à commencer par la suite de la lettre de Pierre que je vous invite à relire à la maison. Jésus lui-même a résumé toute la loi dans les deux commandements de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain. Un petit peu plus loin, l'apôtre Pierre nous dit au verset 17 « Honorez Dieu, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Nous on dirait « honorez le président ». L'action sociale qui vise à répondre aux dysfonctionnements qui se produisent dans nos sociétés et qui affectent en général les plus fragiles, notamment les plus pauvres, c'est une manière de montrer que personne n'est exclu de l'appel à honorer tout le monde et à faire de belles ou de bonnes œuvres. Qu'est-ce que c'est faire le bien ? C'est donc, premièrement, ne pas faire le mal. Deuxièmement, avoir une bonne ou une belle conduite dans notre monde. C'est-à-dire, selon les critères esthétiques, disons-le, de Dieu, de belles œuvres. Ça se voit, ça se remarque. Ça fait en général pas la une des journaux. Mais pour les personnes qui en bénéficient, ça se voit. Les belles œuvres, c'est ce que Dieu considère comme beau, comme bon, comme juste, et non ce qui plaît à nos contemporains, par exemple. Il y a des tas de choses qui plaisent à nos contemporains et qui ne sont ni belles ni bonnes. Il y en a, heureusement, mais... Troisièmement, faire le bien, c'est faire le bien parmi les gens des nations. La belle conduite à laquelle nous sommes appelés se fait dans ce monde et pas sur une île déserte ou ici entre les quatre murs de ce bâtiment et puis après quand on sort dans une demi-heure, on vit sa vie, on fait autre chose. Ça n'aurait pas de sens. Nous, chrétiens, sommes appelés à vivre au milieu du monde, de notre monde, et c'est là que nous sommes appelés à faire le bien. Il faut comprendre à la fois que le monde verra l'amour que les chrétiens auront les uns pour les autres. On trouve ça dans la Bible. C'est Jésus qui le dit à ses disciples. On verra l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Que les chrétiens seront témoins de l'évangile au milieu d'une société différente et qui a besoin de la lumière de l'évangile. Et dans la suite de la lettre de Pierre, Pierre donne différents exemples pour appeler les serviteurs de Christ à faire le bien envers, par exemple, leurs maîtres non-croyants, nos patrons, par exemple. Ou bien les femmes chrétiennes à faire le bien envers leur mari non chrétien. Pierre donne cet exemple-là. Et puis, à tous, il adresse cette invitation d'être prêt à défendre l'espérance qui est en nous, quand on nous pose des questions ou quand on nous critique, n'est pas appelé à être des paillassons sur lesquels on se fait marcher dessus, mais à répondre. Alors Pierre précisera avec douceur et puis avec pertinence, voilà. Donc il faut un petit peu réfléchir à ce qu'on peut répondre à notre collègue ou à un membre de notre famille qui nous critique par rapport à notre foi, et pouvoir le faire avec douceur. Pourquoi ? Pas simplement parce qu'on veut être sympa et gentil, mais parce que répondre avec douceur, c'est apporter une lumière là où il y a de l'obscurité. C'est donner un témoignage. Quitte à en subir certaines conséquences, parce que l'autre en face ne voudra pas changer, ou ne voudra pas se remettre en question, ou de toute façon nous critique pour nous critiquer. Et ça, c'est pas notre boulot, de changer les autres. Notre boulot, c'est de dire pourquoi nous croyons, et qu'est-ce que cela change dans notre vie. Ça, c'était la deuxième question. Qu'est-ce que c'est faire le bien? Et puis, plus brièvement, pour terminer, qu'est-ce que c'est bien le faire? Eh bien, faire le bien et bien le faire, c'est faire le bien pour la gloire de Dieu. Verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu de vos concitoyens, les païens, c'est ça, hein, de vos concitoyens. Ainsi, là même où ils vous critiquent, où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, alors qu'on fait le bien, ils verront vos bonnes actions, vos belles actions, et glorifieront Dieu, loueront Dieu, le jour où il interviendra dans leur vie. Donc, quand on témoigne de notre vie chrétienne, de notre foi, c'est avec cette idée que, tôt ou tard, Dieu va visiter, intervenir dans la vie de la personne qui nous critique. Et ayant ça en tête, on dit ce qu'on croit, pour que, peut-être, cette personne-là se dise « Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Et que ce jour où on témoigne de notre foi, ce soit peut-être le jour où Dieu intervient plus concrètement encore dans la vie de cette personne, pour la changer, pour la transformer. Ici, il faut faire attention. Faire le bien, dans une perspective biblique, c'est quelque chose qui est centré sur Dieu, motivé par le désir de voir Dieu intervenir et donc glorifier dans la vie, dans notre vie et dans la vie des autres. Cela s'oppose bien sûr à une manière de faire le bien qui consisterait à se mettre soi-même en avant quand on fait le bien. Mais cela devrait aussi nous rendre attentifs à certains discours humanistes ou dits humanistes qui font de la solidarité une valeur en elle-même, indépendamment de toute relation de l'être humain avec Dieu. Et on entend ça autour de nous aujourd'hui, des discours de solidarité où on est appelé à faire du bien aux autres comme un but en soi, pour faire grandir l'humanité, pour mettre en valeur les bons sentiments et les bons comportements humains. Alors, il n'est pas précisé dans le texte de Pierre quel est le jour de l'intervention ou de la visite de Dieu. Il peut s'agir du jour du jugement final. Quand même, ceux qui n'ont pas cru seront obligés de reconnaître la souveraineté de Dieu et la seigneurie de Jésus. Mais il peut aussi s'agir du jour où des gens non chrétiens finalement se remettent en question, et ils y sont aidés par la belle conduite ou la bonne conduite des chrétiens, de notre conduite. Alors quand les chrétiens s'engagent dans une action chrétienne dans un monde en détresse, qu'ils font le bien face à la pauvreté, ou face à différentes formes de souffrance, et qu'ils le font bien, c'est-à-dire dans le désir de glorifier Dieu, et non pas de nous mettre en avant nous-mêmes, alors la lumière peut briller dans les ténèbres, et des vies peuvent être changées. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous rappelles ce matin que nous sommes voyageurs sur cette terre. Et je te prie que tu nous aides à vivre cette vie de migrant d'une manière qui te plaise. Aide-nous à nous détacher de ce qui nous retient sur cette terre et qui n'est pas à ta gloire. Aide-nous à ne pas fuir le monde, mais à vivre dans notre monde avec ta lumière, pour être à notre tour les lumières qui éclairent ceux qui vivent dans l'obscurité. Merci de nous rappeler aussi que lorsque nous appartenons à Christ, lorsque nous mettons notre foi en lui, nous sommes enfants de Dieu. Tu nous as choisis parce que tu nous aimes. Et nous ne pouvons pas tout comprendre de cet amour que tu as pour nous, parce que c'est un amour que nous ne méritions pas. Et tu nous l'as quand même donné. Alors, apprends-nous à notre tour à donner cet amour que tu nous as donné à ceux qui ne le méritent pas non plus, qui ne sont pas forcément aimables, qui ne vont pas forcément nous aimer ou nous apprécier. Aide-nous à les aimer et à leur faire du bien et à bien le faire pour ta gloire. Amen. Amen.